C'est un nouveau champion européen du transport aérien, International Airlines Group, qui naît officiellement aujourd'hui de la fusion des compagnies britanniques British Airways et espagnole Iberia. Un mariage de raison qui doit permettre des économies, mais n'aura pas de conséquences visibles pour les passagers.
Nous autres.
Négocier, c'est protéger. C'est comme ça qu'ils soignent.
Zoé Varier.
Noël Lann est médecin du travail.
Un médecin du travail, ça sert simplement à ce que ça soit bien les droits des gens qui soient pris en compte et que l'intéressé ne soit pas son propre négociateur.
Noël Lann interroge. À quel homme le travail est-il adapté?
Nous autres, ce soir, à partir de 20h.
France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Oui, bonjour Daniel Mermet, bonjour toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Alors voilà, je voulais vous remercier pour toutes vos émissions, et particulièrement celle sur le Lumumba. Je suis algérienne, donc nous connaissons très bien ce personnage. Pour nous, c'est un héros de la décolonisation. Il est aussi l'image et le symbole du néocolonialisme, de ce que tous les Congolais vivent actuellement, tous les Africains d'ailleurs, et les Maghrébins. Alors c'est pour vous dire qu'on vous remercie pour tout ce que vous faites par rapport aux opprimés, par rapport à ceux qu'on n'entend pas. J'ai simplement tiqué un petit peu lorsque j'entends sur France Inter dire la première révolution arabe pour la Tunisie. Bon, d'abord, c'est très bien de reconnaître que c'était une vraie révolution qui a eu lieu ce mois de janvier en Tunisie. Nous sommes solidaires du peuple tunisien. Mais je voulais dire, bon, il faut vraiment méconnaître l'histoire des pays arabes pour penser que c'est simplement la première. Nos premières révolutions, je ne vais pas aller très loin ni vous donner un cours d'histoire, mais il faut vraiment ouvrir vos cahiers et certains livres d'histoire, messieurs les journalistes France Inter. Mais nous sommes tout à fait contents de cette révolution tunisienne. Nous en sommes solidaires. Vraiment, vous remercie de toutes vos émissions. Et vous, Daniel Mermet, vous êtes droit dans vos bottes. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Vous avez toujours soutenu ce peuple. Alors voilà, nous sommes bien d'accord que c'est une révolution qui a eu lieu à Tunis. Mais n'oubliez pas que les pays arabes ont vécu des révolutions. Déjà, pour leur indépendance.
Ouais, salut Daniel, salut les AMG, je m'excuse, j'en ris encore, l'interview d'Eric Raoult, mais c'est un sketch. Alors en Tunisie, en fait, il y a une expression démocratique hein, du temps de Ben Ali, simplement c'est pas le même mode d'expression démocratique, quoi. Donc c'est Monsieur Raoult a le sens de la nuance, donc c'est formidable, vraiment une interview formidable qu'on pourrait ériger en sketch. Finalement, les humoristes, ils n'ont rien à faire, il suffit de les écouter, quoi. Donc c'est un des critères de la démocratie, ne sont pas les mêmes. Tout comme le Chili de Pinochet avait des expressions démocratiques, simplement, c'était pas les mêmes que les nôtres, quoi. Il faut essayer de comprendre. Ah, bravo, monsieur Raoult, hein, bravo. Ah, j'espère qu'on l'aura dans un gouvernement bientôt, parce que c'est vraiment une vedette, quoi. Vraiment, vraiment. C'était Frédéric à Amiens.
Bonjour, là-bas si j'y suis, c'est Yvon de Brest. J'ai écouté votre émission sur la deuxième partie là, sur Patrice Lumumba, son assassinat. Et c'est un bon complément sur ce qu'avait déjà fait Patrick Penaud avec ses dossiers Rendez-vous avec X. Hein. Il s'est arrêté à l'acide sulfurique. Il n'y avait pas eu de trace des deux dents qui avaient été récupérées et conservées. Merci, c'est vraiment instructif.
Ce vendredi 21 janvier, j'ai entendu au cours du 7-10 qui se tenait en Tunisie, un jeune homme dire qu'il était heureux de retrouver la liberté de parole dans la rue, que sous la dictature, il ne pouvait parler que de foot. Cela m'a rappelé des moments passés à Barcelone avec un de mes oncles au début des années 1970, avant la mort de Franco. J'avais un tout petit peu plus de 20 ans et je ne comprenais pas qu'il me dise chaque fois que nous sortions « Tais-toi, les murs ont des oreilles ». Il avait combattu avec les républicains pendant la guerre civile, avait été fait prisonnier et condamné à 5 ans de bagne qu'il a effectué au Maroc espagnol. Il avait 18 ans. Ses parents, mes grands-parents donc, se sont enfuis vers la France avec leurs 4 autres enfants plus jeunes. Ma mère a fêté ses 10 ans le 22 janvier 1939 pendant leur traversée des Pyrénées à pied. Après le bagne, mon oncle est revenu à Barcelone et s'y est marié et fondé une famille. Mais jusqu'à la mort de Franco, en 1975, sa maison a été perquisitionnée à l'improviste, de jour comme de nuit, pour savoir s'il ne cachait pas de tract antifranquiste. Demain, ma mère aura 82 ans. Alors, bon anniversaire, maman, et bonne démocratie à la Tunisie. Isabelle de Beauvais.
Allô, salut, Mermet et toute son équipe. En ce moment, j'entends à longueur de journaux, de tous les journalistes, qui disent « Oui, la Tunisie, c'était une dictature, c'était affreux, c'était si, pas de liberté de la presse et tout. » Mais pourquoi ils n'en ont pas parlé tellement avant? Avant, personne n'en parlait. Le seul qui, je trouve, qui soit légitime de journaliste sur la Tunisie, c'est toi. Il y a plusieurs années, Daniel, tu avais déjà parlé de la Tunisie, tu avais déjà fait s'exprimer des dissidents, tout ça. Ma copine voulait aller en Tunisie, en vacances en Tunisie, parce qu'elle avait une copine à elle qui était allée, soi-disant c'était très bien. J'ai dit non, moi j'ai pas envie d'y aller, je veux pas cautionner ce pouvoir et ce dictateur. On n'y était pas allé, du coup. Mais c'est un peu grâce à toi, Mermet, parce que tu nous as un peu ouvert les yeux, et tu as été l'un des premiers à dire « Attention, la Tunisie, ça va pas, il y a un problème ». Mais maintenant, ils s'y engouffrent tous, quoi. C'est ça qui me désole. Les journalistes, il faudrait qu'ils dénoncent avant, pas après. Bien que je ne sois pas toujours d'accord avec toi sur tous tes sujets, mais là-dessus, je veux dire que tu es irréprochable. À la prochaine, salut.
Mais non, on n'était pas les premiers. Il y a 10 ans, lorsqu'on a commencé à faire des reportages sur la Tunisie, nous n'étions pas les premiers. Il y avait déjà des journalistes français qui avaient travaillé sur ce sujet, et notamment Nicolas Beau du Canard Enchaîné et Jean-Pierre Tucois du Monde, qui avaient publié un livre qui s'appelait « J'ai couru dans l'escalier, excusez-moi, je suis un peu essoufflé », qui s'appelait « Notre ami Ben Ali ». Les critiques envers ce pouvoir ont été faites par des journalistes français. Alors ensuite, qui se sont fait virer de ce pays, qui était tricard, qui était indésirable, comme nous. Mais enfin, le travail n'a pas cessé de se faire. Alors aujourd'hui, c'est un phénomène classique, c'est l'emballement médiatique, ça s'appelle les mutins de Panurge, c'est un phénomène tout à fait très souvent observable. Nous, ce qu'on va essayer d'observer, c'est cet anniversaire, ce drôle d'anniversaire du 50e anniversaire, le 50e anniversaire, oui, de la mort, de l'assassinat de Patrice Lumumba, qui intéresse beaucoup, qui passionne beaucoup nos voisins belges depuis longtemps, mais encore plus récemment. Pourtant, c'est une histoire, on pourrait dire, oui, c'est une histoire ancienne. Bien sûr que ce n'est pas une histoire ancienne. D'abord pour les Congolais eux-mêmes, parce que les conséquences de cet assassinat a été terrible pour eux. Non seulement à cause de la guerre qui a suivi, entre les forces lumumbistes et celles de Mobutu, soutenues par les Occidentaux et les Américains, qui a fait des dizaines et des dizaines de milliers de morts entre 64 et 65, mais aussi toutes les conséquences de cette domination, cette dictature de Mobutu pendant une trentaine d'années, qui a entraîné la ruine complète de ce pays, l'enrichissement extraordinaire de Mobutu, qui était dans les années 90 la cinquième ou septième fortune au monde, qui a pillé littéralement ce pays. Ça rappelle quelque chose à ceux qui sont en Tunisie actuellement, et ça a entraîné la misère, la ruine et le chaos dans ce pays qui a beaucoup de mal à se relever aujourd'hui. C'est dire si cet assassinat a eu des conséquences. Des conséquences aussi quant à la responsabilité. Qui a tué Patrice Lumumba? Alors, l'histoire progresse quand même. On travaille, on fait des recherches. On fait des reportages, les témoins. On arrive quand même à faire affleurer, émerger une certaine vérité. Une chose est certaine, on va le voir dans cette émission d'aujourd'hui, c'est la responsabilité des États-Unis, avérée, confirmée, avouée, sans plus de problème, par la CIA était présente, le gouvernement américain avait voulu cette élimination politique et physique de Lumumba. Alors, une autre responsabilité, c'est celle du gouvernement belge de l'époque. Et là-dessus, il y a une controverse qui dure depuis des années et qui déchire la mémoire en Belgique. Évidemment, c'est lourd, c'est un passé qui est là et qui est lourd. En Belgique, il y a, il y a des colonialistes qui demeurent, qui persistent et qui s'entêtent, qui défendent le colonialisme. Ça existe encore. Ils sont très vaillants, ils sont très têtus et ils ont leur même un petit musée à Namur dans lequel on va retourner aujourd'hui. Et puis il y a évidemment ceux qui s'opposent à ces idées et à cette mémoire-là. Autour de qui a tué Patrice Lumumba ? Quelle a été la responsabilité du gouvernement belge de l'époque, du roi éventuellement, et de ceux qui étaient présents? C'est un enjeu, c'est un point crucial et névralgique. C'est pas du tout une histoire comme ça qui devrait intéresser les amateurs d'énigmes historiques. Les conséquences sont si lourdes et si longues que ça mérite que nous nous penchions dessus, tant il y a de comparaisons et de rapprochements à faire avec notre histoire française. Voilà notre thème du jour. Qui a tué Patrice Lumumba ? Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse Gislu au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux AMG. Ici c'est Thomas Guéret. Donc pour vous tenir au courant que les actions anti-publicitaires dans le métro se multiplient, cet après-midi à 17h à la station Gare de Lyon sur les quais du RER A. Donc 17h, Gare de Lyon, quai du RER A, aura lieu la seconde action « Le métro est à nous ». Ben, le principe est simple, hein, on va placarder des affiches pour protester contre l'invasion publicitaire et notamment contre les écrans publicitaires vidéo qui consomment chacun autant que deux ou trois familles françaises, qui sont en plus prévus pour être dotés de caméras de surveillance pour surveiller les usagers et puis savoir s'ils regardent bien la publicité. Donc si vous voulez participer, 17h, Gare de Lyon, quai du RER A. Merci d'avance, au revoir.
Bonjour Daniel, c'est Jacques, j'appelle de Toulouse. Voilà, je voulais vous informer, vous, la région sud-ouest et la France entière, que le samedi 22 janvier à 20h30 a lieu au Bikini un concert de soutien aux faucheurs volontaires d'OGM qui n'en ont plus que jamais besoin, après la condamnation d'un faucheur à 50 000 euros de dommages et intérêts pour avoir fait joujou avec les vignes à Colmar. Merci et bon vent à vous tous.
Oui, bonjour, c'est Serge Gallo. J'ai téléphoné l'autre jour pour une affaire qui se passe dans le Tarn, dans un petit village donc où on subit le harcèlement du maire et de la gendarmerie locale. On va être mis dehors de notre logement. Voilà, on va être expulsé avec trois enfants en bas âge dans un village où l'école est menacée de fermeture depuis des années. Donc voilà, ça fait partie du harcèlement. Ça fait des années que ça dure. Voilà.
Salut à tous les AMG. Le groupe d'action et de résistance pour la défense de l'hôpital public de Niort, dans le sud de Sèvres, organise une réunion d'information et de débat ouverte à tous le vendredi 21 janvier à 20h30 à l'amphithéâtre du centre Duguesclin de Niort. Jean-Claude Marx, vice-président de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, évoquera un enjeu national, l'hôpital public et la santé pour tous. Venez témoigner et vous indigner de la dérive de l'hôpital public en un hôpital rentable entreprise, où il est maintenant vital de faire du chiffre à tout prix, pour survivre. Merci à tous, venez nombreux.
Salut à tous et à toutes. Le repère de Marsac-sur-Tarn se tiendra ce soir, vendredi 21 janvier, à la typique 19h30. Nous parlerons du film Les réquisitions de Marseille, qui sera projeté au cinéma de Gaillac ce mardi 25 janvier à 20h30. Nous parlerons aussi du réseau citoyen résistant, ainsi bien sûr que de la Tunisie. On vous attend nombreux à la typique de Marsac-sur-Tarn, ce soir, 19h30. Adieu.
Bonjour. Le prochain repère à Nantes sera intitulé « Patrie et apatride ». Alors venez échanger, parler, écouter,
à propos de frontières et de communautés, de naissances sur terre et de droits du sol et tout ce qui s'ensuit. Cela aura lieu au Méliès le vendredi 21 janvier à 19h19.
Daniel, je me souviens de la manière dont la TV française avait couvert l'assassinat de Lumumba. Après des commentaires et des images de manifestations dites contre Lumumba, et en particulier je me souviens du visage plein écran d'un Congolais, le journaliste posait la question « Qu'auriez-vous fait si vous aviez été en présence de Lumumba ?» La réponse avait été avec une haine bien marquée « Lumumba, je l'aurais mangé ». Est-ce volontairement que l'on a présenté un Congolais comme un sauvage anthropophage pour nous dire que ces gens-là ne sont pas des hommes, ce sont encore des animaux sauvages, non civilisés. Je dois te dire que cette image me hante toujours après 60 ans.
J'ai retrouvé Manuel, ce manifestant anti-lumumbiste rencontré précédemment.
ORTF.
Alors Manuel.
Oui.
Vous êtes content maintenant ?
23 février 1961.
Oh, et pourtant, je suis tellement content. Pas mal, hein ?
Hein ?
Je suis tellement content.
Pourquoi vous êtes content ? Parce que Lumumba est mort ?
Ouais. Vous me voyez rigoler même, parce que je suis tellement content.
Mais ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça ?
Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Hein? Si c'était chez moi, mais je devrais même le manger, comme qu'on mange les chikwangs.
Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les lumumbistes?
Avec les lumumbistes? Si, dans mon avis, si on les arrête, on peut les envoyer. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais le foutre tout ça à Kouanga, alors on devrait le couper les oreilles. Et aujourd'hui, on coupe l'oreille, demain, on coupe les bras, le lendemain, on coupe les jambes, on les laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors on les prend, on les met comme les statues, les squelettes.
Patrice Lumumba est mort.
RTB, 21 février 1961.
S'il est la victime d'un assassinat politique,
Pierre Wigny,
nous condamnons énergiquement à un pareil attentat.
Ministre belge des Affaires étrangères.
Le gouvernement l'a dit hier à la Chambre, et je le répète aujourd'hui. Tout prisonnier doit être traité humainement et jugé par des tribunaux réguliers.
La fin de Lumumba, il faut dire d'abord que déjà lorsque le monsieur, lui, se trouve arrêté à Leopoldville,
Guillaume Kongolo,
la décision est prise de son élimination physique. La décision, je dois le souligner, est prise à Bruxelles par Gaston Hiskens, le Premier ministre, et le ministre des Affaires africaines, Harold Desmond-Lenden, pour que les services secrets belges et américains ne puissent pas être mouillés dans cette affaire. Il faut faire exécuter les choses au travers de prête-main congolais. Je ne vais rien vous apprendre. Le professeur Jacques Brassine, qui a écrit une thèse de doctorat sur l'assassinat de Lumumba, était secrétaire du groupe envoyé ici à Elisabethville pour l'assassinat de Lumumba.
Il arrive à 4h45.
Jacques Brassine.
Puisque ça, on a les heures à la tour de contrôle. C'est extrêmement rapide. Il arrive, il descend, ils sont un peu poussés, du DC-4.
Sur ordre du ministre des Affaires africaines belge,
Ludo De Witt.
On l'a déposé là sur la partie belge de l'aéroport, parce que l'autre partie était dans les mains des Nations Unies. Et sur la partie belge de l'aéroport, il a été pris en charge par des officiers belges qui commandaient des soldats et des policiers katangais.
On embarque les prisonniers. Ils sont embarqués, ils sont emmenés tout près de Chilatembo. Et là, c'est à 60 km de ville. Là, on va.
Et ils vont être maltraités là-bas jusqu'autour de 20 heures.
Il y a beaucoup de témoignages qu'il a été torturé. Et finalement, je crois, après 5 heures, on l'a transféré en brousse et on l'a exécuté.
On va exécuter, il n'y a pas d'autre mot, les trois prisonniers.
Et à partir de 20h, Il y aura un cortège de 4 voitures américaines et 2 jeeps qui vont amener jusque dans ce paysage ici.
Là où nous sommes.
Où nous sommes, paysage qui a été choisi tout simplement parce que c'était à l'époque un domaine de chasse. On va les exécuter en ces lieux et on va les prendre, les jeter dans une fosse commune qui était déjà préparée en cette nuit-là, en ces lieux.
Ma compagne chérie.
Lettre de Patrice Lumumba à sa femme Pauline, écrite en prison en décembre 1960.
Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction, le colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo, c'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se retrouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront la lutte que le jour où il n'y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni sévices, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce. Car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi, je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis, avec Guy Van Til. Lumumba, un géant dormant.
Guy Patrice Lumumba, le fils posthume de Patrice Emery Lumumba. Il est mort il y a 50 ans. Je suis né 80 jours après la mort de mon père, quand il était assassiné. La presse d'époque parlait des 4 enfants vivants qui sont partis en Égypte. Et moi, je naîtrai 80 jours plus tard et j'ai resté pendant 20 ans au pays.
Et vous faites, avec vos frères et avec les descendants de Patrice Lumumba, partie de ceux qui portent plainte?
La plainte, effectivement, nous sommes à 5. Dans la famille, il y a François, Patrice, Julienne, Roland et moi. La plainte vise tout d'abord à ce que la justice rétablisse la vérité sur la mort de notre père, contrairement à ce que la commission parlementaire a fait un travail politique où la Belgique a reconnu sa responsabilité morale. Mais nous, dans notre plainte, nous visons les Belges dont nous avons les dossiers et les noms. Il y en a 12 qui sont encore restés vivants.
Mais il y a cette volonté de vérité, de mémoire, d'un côté. Et puis, d'un autre côté aussi, il y a la question d'une autre partie de la vérité. C'est la question de la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Il y a ces images qui ont choqué il y a quelques années de ça, de cet ancien officier belge qui exhibait comme un trophée de chasse les dents de votre père.
Nous ne savons pas davantage, également ces films jusqu'à présent. Je vous dis la vérité, je n'ai jamais pu terminer. À la fin, j'ai les sangs. Et ces films, on vous montre, voici comment votre père a été dépecé. Même 50 ans plus tard, ça dit je pleure au fond de moi. Et entre des frères, on n'a jamais parlé de notre père. C'est un sujet tabou entre nous. On parle du passé. On n'a jamais parlé avec mes frères, notre père. On ne les cite pas.
Et pourtant, il est reconnu comme une des figures mythiques du XXe siècle, comme un des héros pour l'indépendance et pour les droits de l'Afrique.
Nous le prenons pour notre père. Il y a la partie, c'est-à-dire ça c'est les combats côté militantisme, ouais, dont je suis fier de lui. Et ça c'est côté fierté, c'est-à-dire de dire il a raison, voici les idées que je partage entièrement. Mais au fond de nous, au fond de moi, il y a quand même ses pères que je cherche. Et nous avons porté plainte pour qu'on nous dise la vérité, qu'on sache, si possible, qu'on nous restitue même une partie, même un os, pour qu'on aille faire un deuil. Et qu'on dise, nous avons un cimetière où il y a une partie de notre père. C'est tout ce que vraiment nous recherchons.
Ici, j'ai le reste.
Arte 2008.
D'une personne historique très importante.
Et c'est tombé ou vous l'avez
arraché.
Ouais. Gérard Soet, chef de la police du Katanga.
Il avait une denture, une très bonne denture. Ouais. C'est couvert avec de l'or hein, derrière. Donc un dentiste s'est identifié ça. Hein. Il m'a déjà fait jurer beaucoup à ce Lumumba, il me fait encore jurer maintenant.
Qu'est-ce qu'il vous a fait jurer?
Lumumba?
Oui.
Réfléchissez, qu'on vient de vous dire on a tué Lumumba et maintenant vous devez le faire disparaître dans un pays qui n'est pas le vôtre. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir, hein. Mais là, il doit venir avec deux dents de moins devant.
De cet homme, Gérard Soet, officier de police, disparu récemment et qui montrait comme un trophée, mais aussi comme une relique, les deux dents de Patrice Lumumba pourraient ressembler à, vous savez, ces taches que vous avez sur du linge, une chemise, j'en ai une comme ça, avec une tache rouge. Et j'ai beau le passer à la machine régulièrement, jamais cette tache ne disparaît. C'est un peu la même chose dans la mémoire de nos voisins belges. Il y a cette putain de tache rouge qu'on n'arrive pas à effacer. 50 ans, des milliers de lessives, des milliers de mots, des milliers d'archives pour essayer d'effacer, et la tâche remonte toujours à la surface. C'est cette mémoire, c'est cet homme qui a été tué ce jour-là, ce 17 janvier 1961, non loin de Lumbumbashi, dans la forêt. Il y a deux mémoires qui s'opposent, et de plus en plus, de façon vive et frontale, dans ce pays. L'une qui dit non, c'est pas nous, la Belgique n'y est pour rien. Nous autres, qui étions au pouvoir, qui étions proches du pouvoir, qui étions des militaires, des gens de la police, etc. Oui, oui, on était présents, puisque l'indépendance avait été proclamée si récemment. Mais nous n'y sommes pour rien, nous n'y sommes pour rien. C'était l'indépendance, c'était donc une affaire de Congolais entre eux, et nous n'y sommes pour rien. Et puis il y a les autres, Belges, qui cherchent, pas seulement Belges d'ailleurs, qui cherchent et qui sortent des archives et des témoignages, et de plus en plus nombreux, et de plus en plus accablants, pour dire si il y a une responsabilité d'un certain nombre de personnalités belges. Ces recherches ont abouti à cette commission d'enquête qui a livré ses conclusions en 2002. Ça a été un étonnement. Mais pour beaucoup, c'est insuffisant parce que l'enquête a conclu à une responsabilité morale. Morale. Et pour certains, ce n'est pas suffisant. Les enfants de Patrice Lumumba, l'un d'eux vient de nous le dire, ne se satisfont pas de cette responsabilité morale, de cette repentance, d'autant plus qu'à cette époque-là, il y avait peut-être des intérêts politiques et économiques du côté belge, de façon à trouver des liens un peu plus amicaux avec la République démocratique du Congo. Mettons ça de côté, ce soupçon de côté. Ça ne suffit pas. Et la législation belge permet aujourd'hui, eh bien, de poursuivre. Alors il y a une liste inconnue pour l'instant, non révélée pour l'instant, d'une douzaine de personnes qui sont visées, qui seront visées par ces poursuites. Espérons que ce procès arrive, que ce tribunal puisse siéger et que ces personnes puissent être présentées devant ce tribunal, pas seulement évidemment pour la mémoire des enfants de Lumumba, mais pour notre mémoire à tous, pour la mémoire de tous ces Africains indépendantistes, nationalistes de ces années-là, qui ont voulu vraiment l'émancipation de ce peuple, de ces peuples, de ce continent, qui est dans l'état où nous savons. Il y a une responsabilité de ces temps-là, de ces époques-là, de ces esprits-là, de ces idéologies-là, et probablement, oui, en effet, de ces hommes-là. C'est jusqu'à 16 heures. C'est là-bas si j'y suis, Lumumba, un géant dormant.
J'ai rencontré l'arbre qui reçut les balles de Patrice Lumumba. Et moi je lui ai dit, c'est toi, c'est toi, c'est toi l'arbre qui reçut les balles de Patrice Lumumba. Oui, c'est moi. J'aimerais te prendre en photo et te faire une interview afin que les Africains sachent ce qui s'est réellement passé. Alors l'arbre m'a répondu, non, je ne parlerai pas. Nous autres arbres n'avons pas l'habitude de nous mêler des affaires humaines. Cela ne fait partie ni de nos usages, ni de nos coutumes, ni de nos usages, ni de nos coutumes. Je me suis tout simplement trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai moi aussi, comme vous, peur des représailles. La vie d'un arbre vaut-elle la vie d'un homme? Vaut-elle la vie d'un arbre? Vaut-elle la vie d'un homme? Hein? Combien de Patrice Lumumba nous faudrait-il africains pour tirer les leçons de l'histoire? 2, 4, 6, 8, même 10. J'ai rencontré l'arbre qui reçut les balles de Patrice Lumumba.
RTBF 15 mai 2000.
La Belgique se penche sur son passé. La commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Patrice Lumumba a été installée. L'une des questions à laquelle il faudra répondre, le gouvernement belge de l'époque était-il impliqué directement dans cet assassinat ?
Les Belges, le peuple belge, je crois, n'a pas grand-chose à craindre de ça. Écoutez, il y a des choses qui ne sont pas encore très claires. En tout cas, moi, je ne vais pas pleurer sur la mort de Lumumba. Il est triste qu'il se soit fait éliminer de cette façon. Bon,
Mais il l'a cherché.
Il l'a cherché. Voilà ce qu'on entend dans ce petit musée colonial, le musée colonial et royal de Namur, où, ouvert une demi-journée par semaine, où se retrouvent les défenseurs de la colonisation belge. Oui, ça existe encore en Belgique, ces hommes et ces femmes qui veulent absolument défendre la colonisation, l'esprit de la colonisation et les acquis de la colonisation, et pour qui ce Lumumba ne vaut vraiment pas grand-chose.
Bon, Lumumba, c'est un peu un paranoïaque. Il a essayé de trouver des appuis de tous les côtés pour sa politique d'émancipation. Alors, il s'est tourné vers les États-Unis, qui ne voulaient pas l'aider. Il s'est tourné vers l'ONU, qui n'a pas voulu se mêler trop de l'affaire. Il s'est mis à dos Nkrumah, qui était pourtant son grand copain. Et puis, il a pensé à un moment se tourner vers l'URSS. Et alors à ce moment-là, là, c'était plus possible. Et alors là, le monde occidental a réagi. Et effectivement, il y a des gens qui ont voulu l'éliminer politiquement.
Les gens qui étaient la CIA, les États-Unis, quoi, disons.
Donc, c'est-à-dire des tas de gens, effectivement, que ce soit le gouvernement des États-Unis et peut-être aussi donc la CIA, les Français étaient aussi assez hostiles à Lumumba. Il ne faudrait quand même pas l'oublier. Ils étaient même, les Français étaient relativement en faveur de Tshombe, qui lui avait maintenu l'ordre au Katanga. Les Belges, effectivement, sentaient que leurs intérêts et en même temps la vie de leurs ressortissants étaient menacés par Lumumba. Donc, un tas de gens en voulaient à Lumumba. Mais ceux qui l'ont éliminé, je suis désolé, ce sont des Congolais. Peut-être voilà, influencés par des Européens ou des Occidentaux, mais c'est quand même des Congolais. C'est Mobutu qui l'a mis dans un avion qu'il a expédié au Katanga, et c'est Tshombe et Munongo qui étaient exaspérés par Lumumba, hein, qui avaient lancé des attaques vers dans le nord du Katanga. Ce sont eux qui l'ont fait exécuter.
Alors voilà une version un petit peu en voie de disparition, mais qui a la peau dure et qui, pour certains, relève du révisionnisme, sinon du négationnisme, tant les preuves, les documents, les recherches s'accumulent et ne vont pas dans le sens de ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Dans la manif qui avait lieu dimanche dernier, Antoine Chitungu, historien.
Il y a une commission d'enquête du Parlement belge qui s'est réunie il y a bientôt 10 ans. En quoi ce n'est pas suffisant?
Oui, ce travail, je ne vais pas cracher dessus. Il a eu au moins le mérite de montrer que la Belgique en tant qu'État avait mis tous les moyens en œuvre pour pouvoir arrêter un homme, assassiner un homme et l'éliminer. Ceci dit, la commission n'a pas tiré la bonne conclusion. C'était une conclusion à la belge, ça veut dire responsabilité morale. Mais quand il y a un crime, on ne peut pas se contenter d'une responsabilité morale. Donc la commission n'est pas allée assez loin, elle n'a pas non plus pointé les doigts vers toutes les responsabilités des personnes qui étaient en vie, de façon à déboucher sur une action pénale.
Voilà, une demande de justice, que justice soit rendue.
On ne peut pas se contenter d'un devoir de mémoire quelque peu rhétorique. Il fallait absolument déboucher sur des poursuites, sur des responsabilités personnelles et sur des condamnations. Voilà, parce que cela permettra de donner à ce crime sa véritable configuration en poursuivant les protagonistes et tous les seconds couteaux qui sont encore en vie, parce que tous les autres sont morts dans leur lit.
Louis Marlière, colonel des services secrets belges, a lui aussi joué un rôle clé dans la chute de l'homme politique congolais. Il vit aujourd'hui à Spa, en Belgique.
Arte 2008.
Lumumba a choisi le mauvais camp. Hein. Bien sûr, il était plus ou moins communiste, enfin. Hein. Il a choisi le camp de plutôt des Russes que de l'Occident. Ils ont envoyé deux personnes, un attaché de cabinet et le major Loos, ils les ont envoyés tous les deux pour venir me parler de l'affaire de Lumumba. Et alors il a été question, eux étaient plutôt pour la suppression, et ils voulaient m'envoyer à un tueur de crocodile pour descendre Lumumba. Ça c'est exact. Ils sont venus me proposer ça. Je n'ai jamais, je me suis jamais opposé, hein. J'ai toujours laissé faire, mais on a laissé faire les Congolais, quoi. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient qu'ils disparaissent définitivement, je crois.
j'ai laissé faire. Beaucoup de gens auraient préféré qu'il... Quel a été le rôle précis des autorités belges à l'époque ? Le chevalier Jacques Brassine de la Buissière, né en 1929, était à la fois un témoin et un protagoniste de cette histoire. Il était politologue, c'est un haut fonctionnaire et il est toujours là, bien vivant, l'esprit alerte, et pour lui, il n'y a pas de responsabilité belge.
Tout ça s'est tellement passé rapidement qu'il arrive à 4h45, puisque ça on a les heures à la tour de contrôle, et à 9h43, il est mort, il est exécuté par les Katangais. Bon, c'est extrêmement rapide. Il arrive, il descend, ils sont un peu poussés, du DC-4, on embarque les prisonniers au Katanga. À 6h du soir, il fait noir, hein. Donc on est pas sur l'équateur, mais pas loin. Donc ils sont embarqués, ils sont emmenés tout près de Chilatembo, et là... C'est à 60 km de ville. Là, on va exécuter, il n'y a pas d'autre mot, les trois prisonniers. C'est un peloton de la gendarmerie katangaise, commandé par des Katangais. Et la question que tout le monde me pose, y avait-il des Belges présents ? Et la réponse est toujours la même, oui, il y avait des Belges présents. Ils auraient pu arrêter la chose ? La réponse est non. Non, parce qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire. J'ajouterais qu'il avait envie de le faire. Mais les choses se sont passées tellement rapidement. C'est ça. Là, je me souviens que le soir même, avec le colonel Van de Waal, qui avait la main sur tous les officiers belges du Katanga, on est allé se promener. On a dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et pendant qu'on se promenait et qu'on discutait ce qu'on allait faire, ils étaient déjà morts. Et ça, tout le monde était bien d'accord pour dire que c'était la pire des choses qui puissent arriver. Nous, on souhaitait qu'une seule chose, c'est qu'on les mette à Jadoville. Il y avait une prison qu'ils connaissaient bien puisqu'il y avait déjà été. Qu'on le mette à la prison là-bas et qu'on n'en parle plus et qu'on l'oublie, quoi. Mais surtout qu'on n'exécute pas.
Au nom de l'armée nationale, je peux vous garantir...
RTB.
...que pour moi, M. Lumumba est un homme fini.
3 décembre 1960.
Vous pensez donc qu'il n'a plus aucun rôle politique à jouer au Congo ?
Joseph Désiré Mobutu.
Il est bien là où il est pour le moment, n'est-ce pas, en attendant son jugement.
Pour Ludo de Wit, chercheur opposé, mais radicalement opposé à Jacques Brassine de la Buissière, il y a une responsabilité, une lourde responsabilité des autorités belges, du ministère belge des Affaires africaines de l'époque. L'ordre au moment de l'exécution, l'ordre de tirer a été donné par un officier belge. Les Belges présents au moment de l'exécution auraient pu l'empêcher s'ils l'avaient voulu. Pour une journaliste comme Colette Brackmann, il s'agit bel et bien d'un crime d'État. On voit qu'il y a là une pomme de discorde très importante. Encore une fois, c'est pas seulement un petit jeu sur la mémoire, sur l'histoire, sur le complot à élucider. C'est un fait historique majeur. Encore une fois, je le répète, aussi bien pour la Belgique, pour tous les pays colonisateurs, par répercussion, et puis surtout, évidemment, avant tout pour le Congo, pour la République démocratique du Congo. Ludo de Wit.
Il est extrêmement populaire chez les Congolais et chez les Africains, donc aussi chez les casques bleus qui étaient sur place et qui d'ailleurs étaient invités au Congo par Lumumba même pour finir avec l'intervention et l'agression belge. Mais bon, donc la direction des Nations Unies a complètement trahi cette cause et cette demande. J'ai d'ailleurs trouvé dans les archives des Nations Unies un document qui démontre que c'est sur ordre de l'état-major des Nations Unies que les casques bleus ont refusé de prendre en protection Lumumba et que par suite duquel il est tombé dans les mains de Mobutu, qui a finalement abouti à sa mort. Donc on l'a envoyé finalement au Katanga, bien que les responsables locaux de la Belgique ne voulaient pas, parce qu'ils savaient qu'ils devaient l'assassiner.
Il n'y avait pas moyen de la garder prison dans l'état sécessionniste non reconnu dans le monde. Et c'est pour ça que le ministre belge des Affaires africaines a ordonné son transfert et a donc obligé les responsables belges sur place d'accepter Lumumba. Donc ce ministre, c'est le comte Harold d'Apremont Linden. Il a été envoyé dans un avion belge vers le Katanga. Il a été pris en charge par des officiers sur place. Et les dirigeants de ces officiers, donc, qui se réunissaient au Katanga et qui avaient tous les rênes du pouvoir dans leurs mains, ils ont vu l'ordre du ministre, ils se sont résignés. Ils n'ont pas pris en protection Lumumba, ils n'ont pas ordonné à leurs subalternes, ces officiers belges, de sauver la vie de Lumumba. Et donc, dans cet gouvernement fantoche belge sur place, il y avait des officiers comme l'officier Guy Weber, qui après est devenu un des conseillers du roi Léopold III. Il y a Jacques Brassine, notamment, qui après a joué un rôle grand dans le Parti libéral belge et qui a d'ailleurs été anobli par le roi Baudouin, etc., etc.
La Belgique présente ses excuses pour son rôle joué en 61 lorsque Patrice Lumumba, le premier ministre congolais, était assassiné.
RTBF.
À la lumière des critères appliqués aujourd'hui.
2 mai 2002.
Certains membres du gouvernement d'alors et certains acteurs belges de l'époque portent une part irréfutable de responsabilité dans les événements qui ont conduit à la mort de Patrice Lumumba. Le gouvernement estime dès lors qu'il est indiqué et convenable de présenter à la famille de Patrice Lumumba et aux familles de M. Mpolo et Okito et au peuple congolais ses profonds et sincères regrets et ses excuses.
Le moment est historique et solennel. La Belgique reconnaît sa responsabilité dans l'assassinat du Premier ministre congolais. L'intervention de Louis Michel clôture le débat parlementaire sur le rapport de la commission Lumumba.
Alors voilà, ça c'était en 2002, évidemment, ça a été une déclaration importante, mais qui n'a pas satisfait tout le monde. Regrets, excuses, solennel, historique, mais enfin, voilà, quoi, on s'excuse, mesdames et messieurs. Beaucoup considèrent que quand il s'agit d'un crime d'État, s'il s'agit bien d'un crime d'État, ces excuses, ces regrets, cette repentance ne suffit pas. Alors que, je le répète, pour quelqu'un comme Jacques Brassine, témoin et protagoniste de ces événements, il n'y a pas de responsabilité belge. Quelle est selon vous la responsabilité des autorités belges dans l'arrestation et l'exécution de Lumumba?
Mais aucune, évidemment. Aucune. Mais vous me posez les mêmes questions qu'on se pose depuis des années. Et dit, mais enfin, ces Belges sont là, ils peuvent quand même prendre des initiatives. La réponse est non. Ils dépendent des autorités katangaises.
Pour vous, en bref, l'arrestation et l'exécution de Lumumba, ça n'est pas une affaire belge, c'est une affaire
de Congolais. Bon.
Affaire de Congolais. Donc, attendez, pour essayer de comprendre, la commission d'enquête que vous avez eue ici et les excuses faites par votre gouvernement récemment, pour vous, sont superflues.
Elles sont dans tous les cas injustifiées. Injustifié parce que, de toute façon, les excuses, on a conclu à une responsabilité morale de la Belgique. Qu'est-ce que ça veut dire, une responsabilité morale? On n'a pas été plus loin.
Moi, j'avais... Enfin, c'est quand même pas rien, cette responsabilité morale. Mais... Comment vous avez reçu ça, vous qui étiez témoin et protagoniste?
Mais, protagoniste, pas vraiment, mais enfin témoin à un certain niveau, oui. Donc, les Belges sont partout, à tous les niveaux. Ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent à des ordres. Maintenant, il faut tout ça, 50 ans après, comment peut-on imaginer? Ils obéissent à des ordres. Mais il n'y a pas d'ordre. Personne ne donne des ordres. La seconde chose, c'est qu'à l'époque, tous les Belges sont anti-Lumumba. Tous. Après le coup du discours et l'affront qu'il a fait au roi, tous les Belges, indistinctement, sont anti-Lumumba. Seulement, De là à voir que les Belges ont pu, à un moment donné, dire il faut exécuter Lumumba, des choses pareilles.
Dites-moi un peu quel est le rôle de la CIA et des États-Unis dans cette histoire. Arrestation, exécution de Lumumba. On a des oui. documents bon, déclassifiés au niveau choses. De la CIA, où les anciens de la CIA disent oui, on a eu.
Oui. L'ordre d'exécuter Lumumba venait vraiment du président des États-Unis, c'est-à-dire Eisenhower. Ça, il le dit. Donc, on est sûr que du côté de la CIA, ils avaient l'air de dire, mais eux, ils ont eu peur, hein, ils ont eu peur que le Congo ne bascule, donc eux se préservent leurs intérêts, et ils disent, il faut que Lumumba disparaisse.
L'agent de la CIA, Larry Devlin, reçoit 100 000 dollars de la centrale.
Arte 2008.
Sa mission, faire de l'élimination de Lumumba une priorité qui doit guider ses opérations secrètes.
Lumumba représentait un danger pour le Congo et pour le reste du monde, dans la mesure où il permettait aux Soviétiques de prendre le pouvoir au Congo. J'ai reçu un câble me signalant l'arrivée d'un officier supérieur chargé de me donner des instructions précises. Cela m'a surpris. Pourquoi m'envoyait-il quelqu'un plutôt que de m'adresser un câble? Quand il m'a informé qu'il voulait se débarrasser de Lumumba, j'étais stupéfait. Je n'avais jamais entendu dire que la CIA pouvait être mêlée à ce genre d'affaires. La substance prévue pour éliminer Lumumba était du dentifrice empoisonné qui devait déclencher une maladie qui ressemble à la polio. Puis il y a eu un démenti selon lequel le président Eisenhower n'avait jamais donné ses instructions. À l'époque, j'étais convaincu qu'il en était l'auteur. Il me semble avoir entendu cette phrase. Soit il a donné ses instructions, soit il a été mal compris. Mais j'étais persuadé que l'ordre émanait du président.
Quand il a été retraité de la CIA, Larry Devlin est revenu voir Mobutu qui était au pouvoir. Il était devenu représentant de la société de Beers, le plus important producteur de diamants du monde, et Mobutu lui a accordé un contrat d'exclusivité pour l'exploitation des mines du Congo. Je le disais en commençant, Mobutu avait, dans les années 80, la cinquième fortune mondiale, évaluée à 7 milliards de dollars, et c'est ainsi qu'il, parmi les raisons qui font qu'il fallait tuer Lumumba, parce qu'il fallait que les trusts, il fallait que les multinationales ne perdent pas leurs intérêts. Or, l'indépendance, la décolonisation mettait ses intérêts en péril. La conclusion avec Guillaume Kongolo à Chilatembo. Quel retentissement de cet assassinat à l'époque dans le monde?
Dans le monde, il faut dire que c'était comme une bombe. Partout où il y a eu des marches, il y a eu des protestations. Les Belges ont souffert parce que leurs ambassades, dans la plupart des pays du monde, avaient été attaquées ou saccagées ou des choses comme ça. Et c'était la une de la plupart de journaux de l'époque. Et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays, Lumumba a toujours un nom sur une avenue. Avenue Lumumba, Université Lumumba, des choses comme ça. Il y avait eu un retentissement réel, hein, et après ce décès.
Il y a quelque chose qui m'étonne, moi, depuis que je suis ici. Je pose la question aux uns et aux autres que je rencontre. Lumumba représente quoi pour vous? Et j'ai souvent comme réponse des gens qui disent « Ah oui, c'est une grande figure, nationalisme, cause noire, etc. » Mais c'est lui qui nous a mis dans la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis si longtemps parce qu'il a voulu l'indépendance trop vite, il a rompu avec les Belges. On était nous-mêmes incapables d'assumer le pouvoir. Voilà la responsabilité de Lumumba. Il aurait fallu une transition plus lente, etc. Presque tout le monde nous a répondu ça. Ce qu'on entend, c'est presque, si nous sommes dans cette situation, c'est la faute à Lumumba.
Je dirais que peut-être oui et non. Il faut savoir relativiser les choses. Cette réponse-là, je ne suis pas parmi les gens qui ont contribué à la faire reprendre. Il faut se dire que c'est vrai, le Congo avait un problème. Les Belges avaient une certaine philosophie politique qui voulait que lorsqu'il n'y a pas d'élite dans une communauté, on est tranquille, on n'aura pas des revendications. Et cela a fait que, jusqu'en 1955, ils ne s'étaient pas préoccupés à pouvoir former des universitaires congolais. Effectivement, lorsqu'on envisage l'indépendance, donc c'est l'indépendance d'un pays qui n'a pas d'élite pratiquement, qui n'a pas d'universitaires, qui n'a pas d'intellectuels, qui n'a pas de personnes illuminées par la science pour pouvoir gérer l'État. Donc c'est un problème effectivement parce que les Belges ont colonisé le Congo, ils ne s'occupaient que des intérêts belges. Un point très. Si les Congolais, on pouvait construire quelque chose, c'est dans la mesure où l'on considérait que c'était un moyen qui allait permettre la production dont avaient besoin les usines qui sont en Belgique. Donc c'était comme moyen de production, non pas comme objectif d'améliorer le vécu quotidien de Congolais. Donc ce qui fait qu'on est allé de 1885, qu'est-ce qui sont arrivés ici, jusqu'en 1950 pratiquement, sans que la colonisation belge s'occupe vraiment de construire le Congo avec des structures économiques qui sont bénéfiques à tous dans ce pays. Mais de 60 à aujourd'hui, tout le monde le constate, nous sommes allés dégringolants jusqu'à ce jour.
Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les répercussions sont toujours là.
Oui.
Vous vivez toujours aujourd'hui dans un néo-néo-colonialisme. Quand on voit ces multinationales s'installer, dépecer littéralement ce territoire pour en extraire des minerais, les faire sortir à l'extérieur, on se trouve toujours dans l'histoire des matières premières sur lesquelles vous n'avez que très très peu d'emprise, avec un État inexistant qui est toujours à créer.
Comme on le dit, les matières premières qui sont le malheur de nos nations. C'est ça qui fait le malheur même de nos pays. Et ces matières premières sont la richesse pour ceux-là qui peuvent les exploiter, mais pour nous autres qui ne pouvons pas les exploiter, c'est tout simplement la cause de nos malheurs.
Merci à tous. C'est un reportage avec Guy Vanctil. Merci à Guy Lumumba, Ludo De Vit, Renaud Vivien, Guillaume Congolo, Antoine Chitungu. Merci au collectif Mémoire Coloniale, Jacques Brassine, Jean-Paul Rousseau, Paul Vanès et François Ricmans. Merci aussi à Soro Solo pour la lecture de la lettre d'adieu de Patrice Lumumba à son épouse. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. À la technique aujourd'hui, Éric Morin et Anne-Charlotte Guilhem. Koy Nguyen et Franck Adéraire ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebot et Marina Touyez. Attends vos messages sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Nous sommes au Futuroscope pour vous parler de l'attraction imaginée par Luc Besson, Arthur, l'aventure 4D, un vol à dos de coccinelle au pays des Minimoys.
Eh ben, regarde un peu devant toi et appuie sur le champignon.
Un concentré technologique unique au monde pour vivre le grand frisson.
Oh, et c'est normal qu'on fonce droit sur une grosse toile d'araignée.
Maman!
Au Futuroscope, découvrez Arthur l'aventure 4D, l'attraction préférée des visiteurs. Toute l'année, le séjour Parc plus Hôtel est à partir de 49,50€ par personne. Futuroscope. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
16h01 sur France Inter. On se retrouve lundi à 15h pour la base si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Trois ans de prison avec sursis et 150 000 euros d'amende pour Jean-Marie Messier. Le tribunal correctionnel de Paris a reconnu l'ex-PDG de Vivendi Universal coupable d'abus de biens sociaux et de diffusion de fausses informations. Une condamnation sévère alors que le parquet avait requis la relaxe générale. Condamnation accueillie comme une victoire par les petits actionnaires. Sur place, Élodie Guéguin.
Il est arrivé par la grande porte de la salle d'audience, visiblement détendu, Jean-Marie Messier. Costard gris, le teint hâlé, il n'a pas bronché lorsque le jugement est tombé. Ancien patron emblématique du CAC 40, il a été reconnu coupable d'abus de biens sociaux, en lien bien sûr avec son parachute doré qu'il a négocié mais qu'il n'a pas touché. Reconnu coupable aussi de diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur la situation de Vivendi Universal au début des années 2000. Cet après-midi, après-midi, le président du tribunal a égrené le nom des 300 petits actionnaires floués. Ils ont été le fer de lance de cette enquête pénale. Ils se disent satisfaits de cette condamnation. À l'issue de l'audience, c'est par une porte dérobée que J2M est reparti en évitant soigneusement photographes et caméramen.
Élodie Guéguin. Jean-Marie Messier va faire appel de ce jugement. Il y aura donc un second procès. Parmi les autres prévenus, Edgar Bronfman Jr., directeur général de Warner Music, est condamné à 15 mois de prison avec sursis et 5 millions d'euros d'amende pour délit d'initié. Guillaume Anzo, ancien directeur financier de Vivendi, est condamné à 15 mois de prison avec sursis. Visite très chahutée pour Michel Alliot-Marie à Gaza. Malgré son appel à lever le blocus israélien sur le territoire palestinien, la délégation de la ministre des Affaires étrangères s'est faite bousculer par des manifestants pro-Hamas, notamment lors de la visite de l'hôpital Al-Quds. Une chaussure a été lancée en direction de la ministre qu'elle a esquivée. Un membre de la délégation a été légèrement blessé dans la bousculade. Les manifestants reprochent à la ministre des propos qu'elle n'a pas tenus sur le prisonnier Gilad Shalit. C'est le père du jeune soldat franco-israélien qui a qualifié, en présence de la ministre, la détention de son fils sans visite de la Croix-Rouge de crime de guerre. Les manifestants portaient des banderoles indiquant « Il y a Gilad Shalit », mais aussi 7000 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. La ministre est partie vers le Caire pour la suite de sa tournée au Proche-Orient. Paris réagit aux menaces d'Oussama Ben Laden. Selon le porte-parole du Quai d'Orsay, la France est déterminée à poursuivre son action en faveur du peuple afghan. Dans un message audio diffusé par Al Jazeera, le chef d'Al-Qaïda conditionne la libération des otages enlevés au Niger au départ des forces françaises déployées en terre musulmane, notamment en Afghanistan. C'est la deuxième fois en 3 mois que Ben Laden vise directement la France et Nicolas Sarkozy. Le président de la République et son prédécesseur à l'Élysée, Jacques Chirac, ont déjeuné en tête-à-tête dans un hôtel parisien. Il s'agissait d'évoquer les questions internationales et notamment les G8 et G20 présidés pour un an par la France. On est toujours sans nouvelles de Laetitia, 18 ans, disparue depuis 2 jours à Pornic, en Loire-Atlantique. La garde à vue du suspect a été prolongée de 24 heures. Il a admis avoir eu un accident avec la jeune fille qui rentrait chez elle en scooter mardi soir, mais n'a pas donné plus d'informations. Les recherches se poursuivent, notamment autour du pont de Saint-Nazaire. Renault recrute. 2000 personnes vont être embauchées en CDI et 2700 jeunes en alternance l'année prochaine en France. Il s'agit de compenser en partie les 3000 départs potentiels dans le cadre d'un accord sur la pénibilité. Et puis Patrice Gélinet quitte France Inter. L'ancien patron de France Culture et producteur de 2000 ans d'histoire vient d'être nommé au Conseil supérieur de l'audiovisuel par le président de l'Assemblée nationale. 2 autres conseillers sont nommés, Francine Mariani-Ducret, ancienne directrice des Musées de France, et le sénateur centriste Nicolas Habou, respectivement par l'Élysée et le président du Sénat. Le CSA est composé de 9 membres, renouvelés par tiers tous les 2 ans.
Dimanche soir politique, une émission en direct sur France Inter et iTélé avec le journal Le Monde et Dailymotion, tous les dimanches à 18h10. Jean-François Aquili.
Eva Joly, la députée européenne Europe Écologie Les Verts, probable candidate en 2012, est notre invitée ce dimanche. Elle nous dévoilera pour la première fois les grands axes de son programme et nous lui demanderons également ce qu'elle pense de son rival Nicolas Hulot. Rendez-vous avec Eva Joly dans Dimanche Soir Politique.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde et Jean-Jérôme Bertolus d'iTélé, dimanche à 18h10. France Inter et le Théâtre du Rond-Point présentent jusqu'au 19 février Harper Reagan. Lucas Emleb cisèle en orfèvre le voyage initiatique d'une quarantenaire déphasée, avec notamment Gérard de Sarthe, Marina Foïs et Louis d'Olanxin.
Il a dit non ?
Ouais.
D'accord.
Je sais pas quoi faire. Donc une envie, c'est de lui dire qu'il peut se le foutre au cul, son boulot, de partir et d'y aller quand même.
Tu ne peux pas.
Je sais.
Retrouvez Marina Foïs le 27 janvier à 23h dans Voulez-vous sortir avec moi ? France Inter. France Inter.
La différence.
16h06 sur France Inter, l'heure de retrouver Frédéric Lodéon et le carrefour de Lodéon. Bonjour Frédéric.
Et bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Pour commencer, un jeune virtuose, il est né à Taïwan, il a été élevé en Australie. Il s'appelle Ray Chen et Ray Chen en plus signe un petit mot dans le livret du disque qui nous raconte ses relations avec les œuvres. Et on va commencer par entendre la musique elle-même, c'est peut-être plus intéressant quand même. Le tri du diable de Tartini. Alors on a un rapport extrêmement précis d'un certain Charles Burney qui était un voyageur musical, si j'ose dire, parce qu'il nous a laissé plein de chroniques. Et par exemple, en 1771, il a écrit à propos de cette sonate de Tartini ce qu'avait dit l'auteur. Une nuit de l'année 1713, j'ai rêvé que j'avais conclu un pacte avec le diable, lequel s'était engagé, évidemment, à me donner plein de facilités. Alors, il raconte, c'est un peu long, mais que tant qu'il y a eu cette vision, tout allait bien, que les vœux du violoniste se réalisaient, ses désirs se voyaient de plus en plus comblés, se voyaient vraiment assumés grâce au concours de ce nouvel assistant diabolique. Et puis, dans le rêve, Tartini imagine qu'il tend son violon au diable et il l'entend jouer une sonate extraordinaire, d'une beauté absolument unique. Et voilà, pendant qu'il se réveille, il essaye, lui, de reproduire cette sonate sur son violon, mais le rêve s'était dissipé. Et ce qu'il écrit, dit Tartini modestement, était tellement ordinaire par rapport à ce que le diable avait produit dans son sommeil qu'il n'aurait pas hésité à briser son instrument et à renoncer définitivement à la musique s'il n'avait pas su, au fond, comment gagner sa vie autrement. S'il avait su, exactement, s'il avait pu trouver un autre moyen, eh ben, il n'aurait pas continué à jouer de la musique. Heureusement qu'il a continué quand même. Allegro Energico de la sonate Le Tri du Diable de Giuseppe Tartini. Thank you.